le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, le mouvement autonomiste jurassien n'entend pas combattre la suppression des articles 138 et 139 de la Constitution cantonale. La décision a été annoncée hier par le gouvernement. Le MAJE dit ne pas vouloir tomber dans le piège du canton de Berne. Christian Lanz est sur le départ. Le médecin cantonal jurassien va, comme prévu, quitter ses fonctions la semaine prochaine. Selon lui, le poste doit être repensé et des collaborations avec d'autres cantons envisagées. Les organismes génétiquement modifiés devraient rester bannis de l'agriculture suisse. Le Conseil national a validé ce matin une prolongation de 4 ans du moratoire sur la question. Certains élus auraient voulu instaurer des exceptions concernant les plantes. Le soleil restera bien présent cet après-midi, malgré quelques voiles nuageux. Il fera jusqu'à 22 degrés en plaine et 19 dans les franches montagnes, des conditions qui se poursuivront encore plusieurs jours. Le mouvement autonomiste jurassien est prêt à passer l'éponge sur la suppression des articles 138 et 139 de la Constitution cantonale. Cette décision a été annoncée hier par le gouvernement lors de la signature de la feuille de route sur le transfert de Moutier dans le Jura. Pour rappel, ces articles hautement symboliques portent sur la possibilité d'une réunification entre le Jura et le Jura bernois. Le MAJE n'entend donc pas monter au front pour s'opposer à ce retrait. Les explications de son secrétaire général Pierre-André Comte.
Ce qui est gros comme une maison aujourd'hui, c'est que le canton de Berne souhaite que l'on tombe dans le piège. Il souhaiterait que le mouvement autonomiste jurassien rue dans les brancards et déclare la guerre au gouvernement jurassien. Alors, pour reprendre le titre d'une pièce de Giraudoux, la guerre de Troie n'aura pas lieu et la guerre avec le gouvernement jurassien n'aura pas lieu. Donc on voit bien ce qu'il cherche, c'est de faire échouer le concordat devant le Grand Conseil éventuellement devant le peuple jurassien, pour empêcher Moutier de rejoindre le canton du Jura. Et donc, ce piège-là, nous n'y tomberons pas. Ce qui nous importe, l'objectif principal, unique, c'est évidemment de promettre à la commune de Moutier d'être rattachée au canton du Jura dans les meilleurs délais possibles, en 2024, comme le souhaite le Parlement, sinon en 2026, comme l'a indiqué le gouvernement.
Qu'est-ce que le MAJE dit aujourd'hui à Belpraon ?
Le mouvement autonomiste jurassien, bien entendu, reste parfaitement fidèle à son idéal. Le retour dans la maison jurassienne est naturel, est inaliénable. C'est un droit qui ne se discute pas. Et donc aujourd'hui, nous pensons particulièrement à la commune de Belpraon, qui a été empêchée de s'exprimer en toute connaissance de cause en 2017. Cette commune doit pouvoir, à un moment donné, à nouveau se reprononcer sur son rattachement au canton du Jura. Et nous travaillerons à cela avec elle si elle le souhaite, ce qui, je crois, est le cas.
Pierre-André Comte qui répondait à Raphaël Chalmeur. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a fortement baissé dans le Jura la semaine passée. 74 contaminations ont été enregistrées entre le 12 septembre et dimanche, contre 161 les 7 jours précédents. Ces chiffres ressortent du dernier rapport hebdomadaire des autorités cantonales. Le document fait également état d'un décès supplémentaire lié à la maladie la semaine passée dans le Jura, soit un bilan identique à la semaine précédente. Il a été l'une des voix et l'un des visages de la pandémie dans le Jura. Le médecin cantonal jurassien Christian Lanz va quitter officiellement ses fonctions jeudi prochain, après 3 ans en poste. Le Soleroy exerçait officiellement à 20% dans le Jura, un poste qui doit selon lui être repensé, Christian Lanz.
L'idéal serait que le canton du Jura disposerait d'un médecin cantonal de disons 60-80%, peut-être 100%, mais ça serait déjà généreux, ou bien qu'on se partage avec un autre canton, je pense à Neuchâtel, dans le futur, ce poste. Parce qu'un médecin cantonal pour un canton petit et un canton moyen, ça serait faisable, de mon point de vue.
On pourrait même imaginer un médecin cantonal commun à tout l'arc jurassien.
Ça serait l'idéal si ce projet de l'arc jurassien qui a quand même donné naissance à quelques résultats, pour moi, c'est bien imaginable, oui.
Christian Lanz, ce médecin cantonal jurassien sur le départ qui répondait à Marceline Michon dans la matinale. Retrouvez son entretien complet sur rfj.ch. Samuel Rohrbach va quitter la présidence du syndicat des enseignants romands. Le jurassien était à la tête du SER depuis 2016. Il sera remplacé par David Ray. Le Valaisan a été élu début septembre à Delémont lors d'une assemblée des délégués. David Ray entrera en fonction en septembre 2022. de fabrique de chaux à centre culturel en passant par une décharge de déchets industriels, les fours à chaux à Saint-Ursanne ont vécu une histoire rocambolesque de 1907 à nos jours. Un livre qui vient de paraître retrace ce passé mouvementé. L'ouvrage s'intitule « Les fours à chaux de Saint-Ursanne, une mine d'histoire ». Il a été rédigé par Marco Bouzer pour la partie historique et géologique et par Nicolas Pope pour la partie culturelle. Le premier n'est autre que l'homme qui a mené à bien l'assainissement de la décharge. Le site a connu un retentissement national, notamment via des opérations de Greenpeace menées dans les années 90. Pour Marco Bouzer, il a également contribué à la prise de conscience écologiste en Suisse.
Il ne faut pas oublier que le dossier est venu dans une situation où les grands projets, la grande législation suisse en matière de déchets était en préparation. On avait déjà l'ordonnance sur le traitement des déchets, mais on n'avait pas encore l'ordonnance sur les sites contaminés. Et Saint-Ursanne est arrivé exactement en ce moment avec des dépôts intermédiaires qui avaient été accumulés et l'Office fédéral de l'environnement a profité justement dans la législation pour interdire la mise en place de ce type de dépôts intermédiaires de déchets spéciaux.
Il y a eu des opérations de Greenpeace qui ont été menées, des occupations. Honnêtement, sans Greenpeace, est-ce qu'il aurait été possible d'assainir ce site ?
Sans l'opposition locale qui a fait appel à Greenpeace, si les opérations, disons, de remblayage de cette mine auraient continué, ça aurait été très très difficile et très coûteux d'assainir et de remblayer ce site. Je pense qu'on n'aurait pas dépensé 15 millions comme on l'a fait, mais ça aurait pu être plusieurs fois ce chiffre, donc 40, 60 et 80 millions en dépendant de la quantité de déchets qui auraient été déposés et stabilisés.
Les fours à chaux sont devenus ensuite un centre culturel dès 1993 et sera bientôt transformé en carothèque nationale pour les études en géologie, ce dès l'an prochain. La première exposition était consacrée à Jean Tinglis, qui a permis au site d'asseoir sa nouvelle position culturelle, comme l'explique Nicolas Pope.
Dans le contexte de la fermeture de l'usine, qui était effectivement toute fraîche, effectivement, c'est un point qui a marqué le public, qui a marqué les personnes, et aussi les personnes organisatrices de l'exposition qui étaient proches de la course des rangiers. Et puis, effectivement, d'ailleurs, pendant l'ouverture de cette exposition, il a été dit, il a été souhaité par les orateurs, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ici quelque chose de plus large sur le plan culturel ? C'est un endroit qui a une vocation d'être dédié aussi à la culture. Donc, c'était prophétique, et c'est ce qui s'est passé dans les 25 années qui ont suivi, dans les 30 années qui ont suivi.
Et pendant cette exposition sur Jean Tinglis, les ouvriers de la fabrique de chaux qui étaient en train de faire faillite ont aussi participé.
Oui, déjà à la mise en place, donc c'est ce qui est particulier, c'est qu'ils ont appris quasiment simultanément la fermeture et la perte de leur emploi industriel, mais en même temps, eh bien, il y a eu des démarches qui ont été faites, notamment avec le chômage, pour justement en faire un programme d'occupation, et ce qui a permis à ces gens et à leurs familles de finalement de vivre cette fermeture d'une manière un petit peu moins brutale que s'il n'y avait pas eu de lendemain. Et bien sûr, je peux m'imaginer qu'ils étaient tristes. Je n'étais pas dans leur tête à ce moment-là. Mais il y avait au moins, avec la collaboration de ces œuvres de Jean Tinglis et puis une certaine solennité avec toute la thématique de ces machines absurdes, il y avait la possibilité quand même d'avoir d'une part un emploi, une occupation et puis peut-être aussi d'entrevoir quel serait le futur de cet emplacement.
Un sujet de François Comte et le livre « Les fours à chaux de Saint-Ursanne, une mine d'histoire » est publié aux éditions Alphil et par la Société jurassienne d'émulation. L'utilisation d'OGM devrait rester interdite dans l'agriculture. Une nette majorité du Conseil national a décidé ce matin de prolonger de 4 ans le moratoire sur les organismes génétiquement modifiés. Le peuple avait accepté une initiative en ce sens en 2005. Pourtant, en 15 ans, de nouvelles technologies ont été développées. Le moratoire ne s'applique d'ailleurs pas à la recherche. Cette prolongation de l'interdiction est toutefois nécessaire selon la conseillère nationale verte Valentine Piton.
Les raisons de cette prolongation ne sont pas exactement les mêmes que les précédentes. Ici, il s'agit de prolonger surtout pour apporter des réponses aux nombreuses interrogations que suscitent les nouvelles techniques de modification de l'ADN. Et cette vraiment profusion de nouvelles techniques pose de nouvelles interrogations. A priori, des risques comparables par rapport aux OGM classiques. Et puis, on a vraiment besoin maintenant d'évaluer de façon consciente silencieuse sans se précipiter ces risques ainsi que des possibilités d'opportunités, mais qu'il ne faudrait non plus pas justement surestimer.
Le PLR et les Verts libéraux ont tenté en vain d'instaurer une brèche dans le moratoire en faveur des nouvelles techniques de modification génétique des plantes. La conseillère nationale libérale radicale Simone de Montmolin.
Je crois qu'il faut ici donner un signal que les choses évoluent, la science évolue et que nous ne pouvons pas rester sur les bases de décisions qui étaient celles que nous avions prises il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a non seulement des évolutions scientifiques, techniques qui apportent des réponses beaucoup plus fines, beaucoup plus précises. Et puis d'autre part, nous avons des enjeux environnementaux, nous avons des enjeux climatiques que nous devons relever, pour lesquels ces nouvelles approches peuvent apporter des solutions reconnues et déjà utilisées d'ailleurs ailleurs.
Un dossier réalisé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. La prolongation de 4 ans du moratoire sur les OGM dans l'agriculture doit encore être validée par le Conseil des États. L'armée suisse va recevoir plus de 2 milliards de francs cette année. Le Conseil des États a approuvé aujourd'hui à l'unanimité les crédits soumis par le Conseil fédéral. 2,3 milliards de francs seront investis au total, soit 400 millions de moins que l'an dernier. L'enveloppe sera notamment allouée au programme d'armement, à l'achat de matériel et à la réduction de l'impact environnemental de l'armée. Les universités et les hautes écoles doivent en faire plus dans le domaine du développement durable. C'est ce qui ressort d'une étude commanditée par l'Office fédéral de l'environnement auprès des étudiantes et étudiants. Seuls 44% d'entre eux se disent satisfaits ou plutôt satisfaits du contenu, des théories et des concepts liés à la question dans leur programme d'études. L'OFEV entend élaborer des mesures pour combler les lacunes.